Guy de Maupassant, La Veillée. Elle était morte, sans agonie, tranquillement, comme une femme dont la vie fut irréprochable. Et elle reposait maintenant dans son lit, sur le dos, les yeux fermés, les traits calmes, ses longs cheveux blancs soigneusement arrangés, comme si elle eût fait sa toilette encore 10 minutes avant la mort, toute sa physionomie pâle de trépassé, si recueillie, si reposée, si résignée, et qu'on sentait bien quelle âme douce avait habité ce corps, quelle existence sans trouble avait mené cette aïeule sereine, quelle fin sans secousse et sans remords avait eu cette sage. À genoux près du lit, son fils, un magistrat aux principes inflexibles, et sa fille Marguerite, en religion sœur Eulalie, pleurait éperdument. Elle les avait dès l'enfance, armés d'une intraitable morale, leur enseignant la religion sans faiblesse et le devoir sans pactisation. Lui, l'homme, était devenu magistrat, et brandissant la loi, il frappait sans pitié les faibles et les défaillants, et elle, la fille, toute pénétrée de la vertu qu'il avait baignée en cette famille austère, avait épousé Dieu par dégoût des hommes. Ils n'avaient guère connu leur père. Ils savaient seulement qu'il avait rendu leur mère malheureuse sans apprendre d'autres détails. La religieuse baisait follement une main pendante de la mort, une main d'ivoire pareille au grand Christ couché sur le lit. De l'autre côté du corps étendu, l'autre main semblait tenir encore le drap froissé de ce geste errant qu'on nomme les plis des agonisants. Et le linge en avait conservé comme de petites vagues de toile, comme un souvenir de ces derniers mouvements qui précèdent de l'éternelle immobilité. Quelques coups légers frappés à la porte firent relever les deux têtes sanglotantes, et le prêtre, qui venait de dîner, rentra. Il était rouge, essoufflé de la digestion commencée, car il avait mêlé fortement son café de cognac pour lutter contre la fatigue des dernières nuits passées et de la nuit de veille qui commençait. Il semblait triste de cette fausse tristesse d'ecclésiastique pour qui la mort est un gagne-pain. Il fit signe de la croix et, s'approchant avec son geste professionnel, « Eh bien, mes pauvres enfants, je viens vous aider à passer ces tristes heures. » Mais Sœur Eulalie soudain se releva. « Non, merci, mon père. Nous désirons, mon frère et moi, rester seuls auprès d'elle. Ce sont nos derniers moments à la voir. Nous voulons nous retrouver tous les trois, comme jadis, quand nous étions petits, et que notre pauvre mère, elle ne put achever. » Tant les larmes jaillissaient, tant la douleur l'étouffait. Mais le prêtre s'inclina, rasséréné, songeant à son lit. « Comme vous voudrez, mes enfants !» Il s'agenouilla, se signa, pria, se releva, et sortit doucement en murmurant oh, « C'était une sainte !» Ils restèrent seuls, la morte et ses enfants. Une pendule cachée jetait dans l'ombre son petit tic-tac régulier, et par la fenêtre ouverte, les molles odeurs des foins et des bois pénétraient avec une languissante clarté de lune. Aucun son dans la campagne que les notes volantes des crapauds, et parfois un ronflement d'insectes nocturnes entrant comme une balle et heurtant un mur. Une paix infinie, une divine mélancolie, une silencieuse sérénité entourait cette morte, semblait s'envoler d'elle, s'exhaler au dehors, apaiser la nature même. Alors le magistrat, toujours à genoux, la tête plongée dans l'étoile du lit, d'une voix lointaine, déchirante, poussée à travers les draps et les couvertures, cria « Maman, maman, maman !» Et la sœur, s'abattant sur le parquet, heurtant au bois son front de fanatique, convulsée, tordue, vibrante, comme en une crise d'épilepsie, gémit Jésus, Jésus, maman, Jésus. Et secoués tous deux par un ouragan de douleur, ils haletaient, râlaient. Puis la crise lentement se calma, et ils se remirent à pleurer d'une façon plus molle, comme les accalmies pluvieuses suivent les bourrasques sur la mer soulevée. Puis, longtemps après, ils se relevèrent et se remirent à regarder le cher cadavre. Et les souvenirs, oh, ces souvenirs lointains, hier si doux, aujourd'hui si torturants, tombaient sur leur esprit avec tous ces petits détails oubliés, ces petits détails intimes et familiers qui refont vivant l'être disparu. Ils se rappelaient des circonstances, des paroles, des sourires, des intonations de voix de celle qui ne leur parlerait plus. Ils la revoyaient heureuse et calme, retrouvaient des phrases qu'elle leur disait, et un petit mouvement de la main qu'elle avait parfois comme pour battre la mesure quand elle prononçait un discours important. Et il l'aimait comme il ne l'avait jamais aimé, et il s'apercevait, en mesurant leur désespoir, combien ils allaient se trouver maintenant abandonnés. C'était leur soutien, leur guide, toute leur jeunesse, toute la joyeuse partie de leur existence qui disparaissait. C'était leur lien avec la vie, la mère, la maman, la chair créatrice, l'attache avec leurs aïeux qu'ils n'auraient plus. Ils devenaient maintenant des solitaires, des isolés. Ils ne pouvaient plus regarder derrière eux. La religieuse dit à son frère, « Tu sais, comme maman lisait toujours ces vieilles lettres, oh, elles sont toutes là, dans son tiroir. Si nous lisions à notre tour, si nous revivions toute sa vie, cette nuit près d'elle, ce serait comme un chemin de la croix, comme une connaissance que nous ferions avec sa mère à elle, avec nos grands-parents inconnus, dont les lettres sont là et dont elle nous parlait si souvent, t'en souvient-il ? » Et ils prirent dans le tiroir une dizaine de petits paquets de papier jaune, ficelés avec soin et rangés l'un contre l'autre. Ils jetèrent sur le lit ces reliques, et choisissant l'une d'elles sur qui le mot « père » était écrit, ils l'ouvrirent et lurent. C'étaient ces six vieilles épîtres qu'on retrouve dans les vieux secrétaires de famille, ces épîtres qui sentent l'autre siècle. La première disait « ma chérie », une autre « ma belle petite fille », puis d'autres « ma chère enfant », puis encore « ma chère fille ». Et soudain, la religieuse se mit à lire tout haut, à relire à la morte son histoire, tous ses tendres souvenirs. Et le magistrat, un coude sur le lit, écoutait, les yeux sur sa mère. Et le cadavre immobile semblait heureux. Sœur Eulalie, s'interrompant, dit tout à coup, « Il faudra les mettre dans sa tombe, lui faire un linceul de tout cela, l'ensevelir là-dedans. » Et elle prit un autre paquet sur lequel aucun mot révélateur n'était écrit. Et elle commença d'une voix haute, « Mon adoré, je t'aime à en perdre la tête. Depuis hier, je souffre comme un damné brûlé par ton souvenir. Je sens tes lèvres sous les miennes, tes yeux sous mes yeux, ta chair sous ma chair. Je t'aime, je t'aime. Tu m'as rendu fou. Mes bras s'ouvrent, je halète, soulevé par un immense désir de t'avoir encore. Tout mon corps t'appelle, te veut. J'ai gardé dans ma bouche le goût de tes baisers. » Le magistrat s'était redressé. La religieuse s'interrompit. Il arracha la lettre, chercha la signature. Il n'y en avait pas, mais seulement sous ces mots, « Celui qui t'adore, le nom Henri. » Mais leur père s'appelait René. Ce n'était donc pas lui. Alors le fils, d'une main rapide, fouilla dans le paquet de lettres, en prit une autre et il lut. « Je ne puis plus me passer de tes caresses. » Et debout, sévère comme à son tribunal, il regarda la morte impassible. La religieuse, droite comme une statue, avec des larmes restées au coin des yeux, considérant son frère, attendait. Alors il traversa la chambre à pas lents, gagna la fenêtre et, le regard perdu dans la nuit, songea. Quand il se retourna, sa sœur Eulalie, l'œil sec maintenant, était toujours debout, près du lit, la tête baissée. Il s'approcha, ramassa vivement les lettres qu'il rejetait pêle-mêle dans le tiroir, puis il ferma les rideaux du lit. Et quand le jour fit pâlir les bougies qui veillaient sur la table, le fils lentement quitta son fauteuil et, sans revoir encore une fois la mère qu'il avait séparée d'eux, condamnée, il dit lentement: « Maintenant, retirons-nous, ma sœur. »